7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, la presse a enquêté sur cette jeune femme qui avait publié un livre en 2014 qui se disait millionnaire à 30 ans, Éliane Gamache-Latourelle. Puis là, on s'aperçoit qu'elle est loin d'être millionnaire, elle est plutôt pas mal endettée.
Mais Paul, je vais pas parler de son cas précisément, ça nous donne l'occasion d'en parler, en fait, du contexte de la vente du succès. C'est-à-dire que les gens qui nous vendent du succès, faut être critique. Quelqu'un qui te dit, écoute, je sors de l'université, j'ai 23 ans, j'ai acheté 5 pharmacies, puis à 30 ans, j'étais millionnaire. Faut regarder l'environnement externe. Donc, le monde des pharmacies est extrêmement compétitif pour l'âge de la personne désignée. C'est pas comme une personne qui a eu une pharmacie en 1975, 80, 90. Là, on parle de quelqu'un qui a eu une pharmacie dans la période où il y a beaucoup de concurrence, qui a des beaucoup de bannières qui arrivaient.
Je pense qu'elle a hérité de son père, quelque chose comme ça, où elle a repris des bannières, pas des bannières, mais des pharmacies de son père. Là.
Je sais pas d'où ça vient, Paul, mais je peux te dire une autre affaire. C'est que pour investir dans des pharmacies, ça te prend du cash, ça te prend un fonds de roulement, ça te prend une mise de fonds sur l'immeuble, ça te prend de l'argent pour faire un bac sur le bail. Alors, on peut pas dire, vendre aux gens, au public, faire des conférences et dire « Je suis millionnaire, je suis self-made, je me suis fabriqué tout seul. » Ça prend de l'argent, là, on n'invente pas de l'argent. Donc, pour être investisseur, c'est ça que ça prend à la base. Donc, il y a beaucoup de cette croyance-là. Il y a beaucoup de gens m'écrivent « Regarde telle personne, elle est entre guillemets « successful ». Je dis « Faites attention, regardez les calculs. Qu'est-ce que ça veut dire être millionnaire en 2018 ?» Si je te dis, Paul, je suis millionnaire, c'est quoi? Est-ce que j'ai 1 million d'actifs nets? Est-ce que je gagne 1 million par année? Parce que, par exemple, si vous avez 300-400 000 dans vos REER, vous dites, j'ai 300-400 000 d'actifs nets plus ma maison. Oui, attention. Le 300-400 000 de REER, Paul, il est imposable au retrait. Donc, il est net d'impôts si et seulement si vous retirez 5-6 000 par année. Ouais. Mais à la retraite, sur 50-60 000, t'es pas millionnaire encore sur papier. Et dans le monde des pharmacies, ça prend plusieurs années maintenant à rentabiliser une pharmacie.
Mais les pharmaciens, d'abord, t'as raison, ceux qui ont acheté il y a plusieurs années, qui ont vendu, ont fait une passe, là. Mais les plus jeunes sont endettés jusqu'au cou avec leur bannière, là.
Oui, et pour faire de l'argent avec une pharmacie, Paul, on fait pas de l'argent avec le shampoing. Le shampoing, c'est un produit d'appel. Donc, quand on rentre chez un Jean Coutu, par exemple, ou on rentre chez un Brunet, et qu'il y a un pharmacien dans le fond, mais l'argent est dans le fond, et pas dans la vitrine. Tout ce qui est en avant, c'est pour vous habituer, vous accoutumer à aller à un endroit pour que vous ayez acheté vos pilules, là. C'est juste sur Masson, à côté de chez nous, là. Il y a 4-5 pharmacies, dont 2 Jean Coutu. As-tu pensé à la concurrence qu'il peut y avoir sur un tronçon de rue? T'as plusieurs pharmacies de bannières différentes et 2 bannières de la même, deux pharmacies de la même bannière. Donc, c'est extrêmement compétitif. Et quand on vend un livre et que la personne se définit comme millionnaire, comme étant une personne, et voici, je suis millionnaire, je te vends le million. Soyez critique si cette personne-là vous vend du rêve facile. Ce n'est pas facile d'être millionnaire. Il y a du travail, il y a de l'investissement et il y a aussi de la chance.
Mais tu sais, les gourous, là, de façon générale, là, tu sais, qui vont te proposer des week-ends de coaching ou encore des week-ends de formation, tout ce que tu veux, ou des conférences, ou c'est temps de l'heure pour analyser ta vie financière. Hey, un instant, là.
Moi, quand Paul, je fais une conférence, je vends l'ordinaire. Je dis, bon, soyez ordinaire, ayez une vie ordinaire. C'est l'inverse, Paul. Je vends la décroissance personnelle.
C'est comme un moine.
Moi, je suis comme un moine.
Le frère économe.
C'est ça, le frère économe. D'ailleurs, je suis allé visiter un couvent de bonnes sœurs et il y avait une madame qui s'appelait l'économe. Moi, j'ai appris ça, que le comptable s'appelle l'économe.
Exact.
On est devenus amis tout de suite.
Ça, c'est sûr, là. C'est sûr. Bon, êtes-vous financièrement infidèle?
Oui, il y avait un article hier dans la presse hier soir qui disait 23% des Américains sondés, selon un sondage, se disent infidèles financièrement. Ce que ça veut dire, c'est on cache des comptes à son conjoint. C'est-à-dire une carte de crédit ou un compte de banque. Ben oui, Paul. C'est quand même un des plus gros sacrilèges, honnêtement, parce que, tu sais, l'argent, c'est complexe dans le couple. Il y a des gens qui ont honte, donc ils ne montrent pas tout, s'endettent sur le côté ou ont des placements. Bon, il y a deux raisons de faire ça. La première raison, c'est de cacher de l'argent à son conjoint-conjointe parce que tu le veux pour son bien. Tu dis, je vais y cacher de l'argent puis on va avoir une belle retraite ensemble. Ça serait mon genre. Je fais pas ça, non, mais tu sais, avoir un compte où j'accumule de l'argent pour notre bien. Tu sais, je me manipule moi-même, je me cache de l'argent moi-même. Mais il y a aussi beaucoup plus l'autre situation. Des gens qui m'écrivent souvent, mon conjoint ou ma conjointe m'a caché qu'il ne payait pas les comptes depuis un an, qu'il s'est endetté, qu'il est allé au casino, qu'il est donc, il y a des trucs. Je vais donner des petits trucs ce matin. Posez des questions. Tu sais, je sais que c'est peut-être pas sexy, mais dire à votre conjoint, par exemple, votre conjointe, comment ça va tes REER? Ta marge de crédit est à combien? On peut-tu regarder ça ensemble? Je vais faire nos comptes. Donc, des petites questions innocentes pour montrer que vous occupez de la santé financière du couple. Mais dans le fond, plus la personne est évasive, plus vous avez un indice. Évidemment, ce qui est difficile, c'est que si la personne sauve une dette dans une autre banque, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est ça qui est dur, c'est d'avoir l'intégralité des comptes. Parce qu'effectivement, je peux dire à ma conjointe, je vais aller voir ton compte de banque, je vais aller voir ta marge de crédit, montre-moi ça. Si elle accepte, et si elle accepte, après ça, elle me dit pas, mais peut-être chez BMO, j'ai Desjardins à la Banque Laurentienne avec 10 000 de cartes de crédit chaque barre. Je le sais pas, tu comprends? Mm-hmm. Mais aussi ouvrir le courrier. Hein? Une petite vérification du courrier de temps en temps. Avoir le contrôle sur le courrier, vous allez recevoir parfois des comptes, sauf si c'est électronique. Donc, tu vois, c'est complexe l'infidélité financière. J'avais comme pas réalisé ça, que c'était un sujet d'actualité très probant, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me parlant de ça. Des échecs qu'ils ont eus.
Cacher des actifs. Ouais, ouais,
mais en tout cas, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, Paul.
Oui, je sais. On a donc, moi, l'heure de tendance ce matin-là.
Moi, ce que je propose, Paul, c'est aux gens, c'est, tu sais, au lieu d'offrir des fleurs, dites, je te propose de te montrer mon bilan financier. Tu sais, mes actifs, mes passifs, mes dettes. Et voici ce que tu achètes.
Ce qui est une preuve d'amour.
C'est une preuve d'amour, Paul.
Merci.
Salut.
Salut. 7h23.